Pauline Pucciano, La Cité d'Albâtre, chapitre 31, Le Livre des Livres. L'un des oiseaux légendes du chancelier était mort un an auparavant, et son conjoint inconsolable avait cessé de faire de la lumière et demeurait prostré sur son perchoir avec un air mélancolique. Le chancelier se souvenait avec une précision accablante de ce jour où il avait reçu Elénore, de ce jour où il avait scellé le destin de la cité d'Albâtre par son incompétence. S'il avait réussi à la contraindre ce jour-là, elle serait aujourd'hui une fidèle servante d'une guilde, et rien n'aurait changé. Il n'aurait pas tous ses morts sur la conscience, et surtout, il n'aurait pas le sentiment, comme ce soir, de contempler pour la dernière fois l'ordre parfait de la haute ville. Le panorama étalait ses proportions admirables, ses couleurs douces, sa calme animation, et le chancelier n'y voyait plus que le théâtre de la future tragédie. Quelqu'un saurait-il à quel point il aurait été mêlé à ce désastre? Quelqu'un saurait-il toute la responsabilité qu'il portait et tous les efforts qu'il avait faits pour l'empêcher? Il avait refait dans sa tête mille fois le discours de contrainte qu'il aurait dû prononcer à Elénore. Dans ses fantasmes, la jeune fille finissait par plier et ils reprenaient tous deux leur place dans le merveilleux engrenage. Mais la réalité était tout autre. Il s'était humilié devant une étudiante, il s'était compromis avec ce serpent de Sornard, il s'était sali les mains, et pour finir, il verrait de ses propres yeux la ville brûler, car, il en était certain, il n'y avait pas d'autre issue. Il se rendit compte au bout d'un long moment que le maître Sornard était à quelques pas de lui, et qu'il regardait lui aussi l'incomparable vue. Le chancelier eut le temps de déchiffrer son expression, qui était des plus étranges. Le maître regardait la ville avec une sorte de fierté ou de convoitise. Ses yeux brillaient d'une excitation insolite et le chancelier se sentit profondément mal à l'aise en tâchant de le comprendre. On eût dit qu'il se préparait à posséder cette ville. Un frisson parcourut le vieil homme à l'idée que peut-être Sornard lui-même avait tout orchestré. N'avait-il pas tenu à épargner Elénore et le bâtard Keller? N'était-il pas des pions à sa solde pour prendre le contrôle de la ville et la lui livrer? Il chassa cette pensée d'un revers de l'esprit. Le maître Sornard, il en avait l'intuition, n'avait besoin de personne et surtout pas d'une armée de gueux. Lui et ses frères sombres avaient beaucoup plus de pouvoir que ses concitoyens ne l'imaginaient. Le chancelier avait fini par le comprendre. Sornard n'était pas au service de la ville et ne prenait d'elle que ce qui l'arrangeait. Il servait depuis toujours ses propres desseins, impénétrables, dans lesquels, pour une raison incompréhensible, la vie d'Elénore et du bâtard avait quelque importance. « Vos supputations ne vous mèneront pas sur le chemin de la vérité, » remarqua sobrement Sornard. « Je suis venu chercher le prix du sang que j'ai versé. » L'ultime pouvoir que le chancelier avait sur lui allait prendre fin dès qu'il lui donnerait le livre. Le chancelier ne put s'empêcher d'essayer d'en tirer avantage. « Et vous l'aurez, » déclara-t-il. « Combien de hauts citoyens avez-vous exécutés ?»« 3. Stell, Emmerich et Mevel. »« Avez-vous pu tirer d'eux les informations intéressantes concernant leur réseau ?» Le maître Sornard prit une profonde inspiration. « Écoutez-moi bien, monsieur le chancelier. Je ne fais pas partie de votre clan. Je n'ai pas été mandaté pour faire une enquête. Vous avez ordonné l'assassinat des apostats de Villebasse. Vous avez ordonné d'en extirper des noms de hauts citoyens et de les éliminer. C'est à la lettre ce que j'ai fait. »« bien sûr, » dit le chancelier d'un ton conciliant. « Je me demandais simplement si je n'avais pas fait de zèle pour vous faire plaisir. Eh bien, en fait, non. Vous auriez dû réfléchir au terme de votre contrat avant. » Cela me semble être une règle des plus élémentaires du commerce, sur laquelle bien des bas citoyens pourraient vous en remontrer. Fort bien, dit le chancelier. Je suppose que vous ne m'éclairerez pas non plus sur le moment où je pourrais compter sur la mort des deux têtes de liste. Le livre. Le chancelier se sentait totalement floué. Non seulement il était directement responsable de 12 meurtres, mais en plus, cela ne servait à rien. Et il allait fournir à cet homme quelque chose qu'il convoitait. Cette seule idée lui faisait presque plus horreur encore que la pensée des meurtres. Le chancelier s'absenta un moment de la terrasse et revint presque aussitôt avec un grand ouvrage broché. « Je pourrais vous expliquer comment s'en servir » proposa-t-il avec une politesse toute machinale. Sornard le considéra silencieusement avec un mépris, teinté d'étonnement. « Quoi ?» demanda le chancelier déstabilisé. « Qu'est-ce qui vous étonne ? que vous puissiez imaginer un instant qu'une de vos misérables compétences pourrait m'être utile à quoi que ce soit. Je vous remercie, fit le chancelier en lançant le livre. Vous avez toujours su tourner les compliments. Sornard ne l'écoutait plus, et à vrai dire ne prêtait plus la moindre attention à sa présence. Le chancelier, décontenancé, ne savait plus que faire ni que dire. Le maître prenait connaissance de l'ouvrage, s'attardant sur certaines pages, feuilletant compulsivement les autres. Il paraissait totalement absorbé par sa recherche. Le chancelier n'osait ni bouger ni parler, totalement hypnotisé par la puissance qui irradiait du maître sombre. Comment la haute ville avait-elle pu le laisser exister? La guilde de l'ombre était née lors de la scission des spiritualistes. Elle devait représenter la face cachée de la haute ville, ses services secrets, sa part de pragmatisme cynique qu'on ne pouvait se permettre d'étaler en place publique et qui aurait choqué les hauts citoyens, mais dont l'histoire avait montré qu'on ne pouvait faire l'économie. Il avait fallu supprimer plusieurs spiritualistes au moment de leur scission. Car leurs idées se répandaient comme une traînée d'oiseaux légendes. Celui qui deviendrait le premier maître sombre avait alors proposé d'ériger une guilde pour prévenir la cité des excès de sa démocratie. Au service de la guilde du pouvoir, mais totalement libre de ses moyens, elle était passée de main en main jusqu'au maître Sornard. Tout le monde, par lâcheté, par commodité, avait détourné les yeux depuis des siècles de ce qui se tramait dans la guilde. Elle ne faisait pas de bruit, elle obéissait sans faillir, jusqu'à présent. Le maître parut trouver ce qu'il cherchait, avec une rapidité étonnante pour la complexité des systèmes d'index du livre. Une ombre de sourire traversa son visage, puis il glissa l'ouvrage sous sa toge et fit luire sa pierre frontale. Le chancelier fut aveuglé par l'intense éclair violet qui en jaillit, et lorsque ses yeux éblouis se réaccoutumèrent à la lumière du soir, la terrasse de la haute université, le plus beau panorama sur la haute ville, était déserte. Chapitre 32. Sombre recommandation. Joris se tenait aux côtés du maître, légèrement en retrait. C'était la première fois qu'il se tenait de ce côté, face aux frères sombres plutôt que parmi eux. La première fois qu'il avait sous les yeux le spectacle de cette multitude de silhouettes encapuchonnées, se découpant à peine dans l'obscurité, de cette dévotion absolue, et il ne put s'empêcher de ressentir à cette vision une certaine ivresse. Le maître venait de lui enseigner des secrets mortels, et il ressentait sa propre puissance comme un sang nouveau coulant dans ses veines. Le pouvoir de tuer par la force de l'esprit, le pouvoir de détruire par l'effet de sa seule volonté. Le maître irradiait. La lueur violette qui s'épandait de son front, désormais familière, baignait toute la salle d'un rayonnement mystique. Sa voix profonde martelait les esprits, s'enfonçait dans les chairs, étreignait les cœurs. L'heure de la gloire noire sonne, mes frères, et son glas souverain va bientôt résonner dans l'univers. Notre confrérie bien-aimée est sur le point de faire exploser ses chaînes, de tracer elle-même la voie de son destin supérieur. C'est l'immortalité, mes frères, que je vous propose aujourd'hui de conquérir, par toutes les forces conjuguées du savoir et du sang, de l'obéissance et du sacrifice. Mon enveloppe mortelle ne contient plus mon âme immense, qui souhaite transcender l'humain et le dominer à tout jamais. Je vais mourir de cette mort qui n'effraie pas le brave, mourir de cette résurrection réservée aux dieux, et mon pouvoir sera alors sans limite. À chacun d'entre vous qui me suivra sur cette longue route, je promets les secrets de la mort. Je dois m'absenter, mes frères, m'absenter de ce corps afin d'en dépasser les limites, et je confie notre confrérie au maître Joris. Il observa un silence durant lequel les frères sombres, bien dressés, n'émirent aucune réaction. En lui repose ma régence et ma confiance. Sur lui doivent retomber votre dévotion et votre serment. Il sera le prêtre et je serai le dieu. Vous, mes frères, serez les fidèles à qui j'ai confié la tâche de préparer mon retour. Car je reviendrai, mes frères, dans un corps jeune et sans défaut que vous aurez préparé pour mon âme souveraine. Ce corps devra grandir dans l'exigence de la force et de la souplesse, de l'habileté et de l'endurance. Il devra être parfait, car mon âme divinisée ne se satisfera d'aucune cicatrice, d'aucune débilité, d'aucune maladie. Il devra être protégé des ennemis qui pourraient lui nuire, il devra être caché du monde dans les ténèbres des caves, il devra savoir supporter la faim et le froid, la soif et la brûlure, la souffrance et l'épuisement. Lorsque je l'investirai, son âme devra être aussi vide que possible, dénuée de paroles, silencieuse et ouverte, Et lorsqu'enfin j'ouvrirai les yeux à travers ses paupières, lorsque mon âme aura fini son voyage et vous retrouvera fidèle devant moi, je vous ferai le don suprême. Pour sceller cette alliance que vous passez avec votre maître, je vous ordonne, mes frères, de vous agenouiller, non pas devant moi, mais devant votre prêtre, qui parlera en mon nom et vous fera connaître ma volonté. Ouvrez votre cœur à son œil sans faille. » Joris vit les frères sombres s'agenouiller, tous au même instant, comme un seul corps démultiplié. Sornar invita Joris à s'avancer d'un geste sec et éteignit brutalement sa pierre frontale. Joris n'hésita pas à allumer la sienne, qui brilla d'un éclat rouge sombre et projeta son esprit, comme le maître le lui avait appris, sur l'ensemble des frères sombres. C'était une sensation étrange, comme une musique ou comme une pulsation. Joris ferma les yeux et se concentra. L'unisson des frères sombres semblait totale au premier abord, mais elle n'était pas parfaite. Trois esprits dissonnaient, comme des instruments mal accordés. Trois germes de rébellion et de dissidence. Trois orgueils qui ne s'abaissaient pas à se prosterner devant lui. Il rouvrit les yeux et regarda toutes les silhouettes agenouillées, toutes les têtes baissées, avec pondération. L'exigence d'ordre qu'il habitait ne souffrait aucune compassion, et il ne prit pas le temps de réfléchir avant d'exécuter l'ordre de Sornar. Par une étincelle fulgurante de sa volonté, il fit taire les trois esprits qui tentaient tant bien que mal de cacher leur résistance. Les frères ne bronchèrent pas lorsque trois d'entre eux s'affaissèrent brusquement, puis Joris ferma de nouveau les yeux et sourit. Maintenant, l'unisson était parfaite. Lorsqu'il se retourna vers le maître, il constata que ce dernier était déjà parti. Il le laissait seul, et Joris se sentait profondément honoré par cette confiance. Tout ce pouvoir que le maître lui avait conféré était comme une épée sacrée dont il était le gardien, un objet d'une rare valeur qu'il n'était pas digne de posséder. Il se montrerait digne de tout lui rendre le jour venu, lorsqu'enfin il reviendrait veiller sur eux. « Je suis la voix de notre maître, par elle j'ordonnerai, par elle j'éclairerai. Les temps anciens sont révolus et les lieux doivent être désertés. Dans les profondeurs de la terre qui s'étend au-dessous de la ville, celle que l'on nommait autrefois la ville sombre, vous perpétuerez nos rites. Emportez tout, ne laissez rien à la surface, calfeutrez la caserne afin qu'elle ne livre aucun secret à la plèbe. Puis vous fuirez la lumière et disparaîtrez dans les ombres. Chacun de vous recevra un plan de la ville sombre et un plan de ce que nous devrons y construire. La tâche que nous a confiée notre maître est une tâche de titan, à laquelle nous nous attellerons dans la ferveur dès que le prochain jour se lèvera au-dessus de nous. Au cœur de la ville sombre, nous bâtirons une citadelle, un trône pour le maître, en devenir d'être Dieu. Allez dans le silence, dans la nuit, dans l'invisible. Le monde souterrain vous attend. » Au même instant, la haute silhouette du maître Sornar débouchait discrètement d'un tunnel à la sortie de la ville basse. Il pouvait entendre les paroles de Joris comme s'il était à ses côtés. Son esprit dominé était comme une fenêtre ouverte dans le sien, par laquelle il pouvait regarder quand il le désirait. Sornar était satisfait de son nouveau prêtre, dont l'obéissance fervente, fanatique, lui garantissait toute la latitude dont il avait besoin. Son dernier ordre avait été de capturer Elenor et de s'emparer de l'enfant à sa naissance. Joris ne démériterait pas. Il ne prêta pas attention aux rumeurs qui parcouraient la ville basse comme des frissons de fièvre courant sur la peau d'un malade. Il savait la révolution proche et ne s'en souciait guère. Albâtre devait changer, comme un reptile en mue. Cela était dans l'ordre des choses. Mais nul ne saurait quelle prise de pouvoir occulte allait avoir lieu en son cœur. Le vrai pouvoir est toujours secret. Il allongea le pas vers la montagne. Il serait à la cité monastère à l'aube, et le codex nécromantis lui appartiendrait enfin. Quelle folie de la part des spiritualistes que d'avoir conservé le manuscrit sans le détruire. Cette attitude leur avait toujours valu le mépris de Sornar. Les spiritualistes ne détruisaient pas ce qu'ils haïssaient. Ils s'en écartaient, ils le fuyaient, mais ne cherchaient jamais à détruire. Sornar, lui, avait épousé la destruction comme une compagne violente et fidèle, une maîtresse capable de l'enivrer et de le servir, de faire de lui ce qu'il était. Il ne doutait pas que les spiritualistes lui opposeraient une résistance et que celle-ci serait pathétique. Il ne savait pas non plus plier devant la force. Le codex nécromantis lui livrerait bientôt l'ultime clé, la pièce manquante de l'infernal casse-tête qu'il avait passé sa vie à retourner dans tous les sens. Il lui ouvrirait, dans un grincement séculaire, la porte surhumaine de l'immortalité.